France Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. Des températures 12 à 13 degrés au-dessus des normales de saison, journée de forte chaleur en France, parmi les villes où ça va cogner, Nîmes.
Si ça continue comme ça, en juillet, on va fondre. Hein.
Dans le monde, en 2021, tous les marqueurs clés du changement climatique ont battu des records, rappelle l'ONU aujourd'hui. Comment s'adapter? Plus de nature en ville, nous irons à Rouen, à Paris. Anne Hidalgo veut faire du périphérique une ceinture végétale. Côté campagne, question sur la sécheresse et le modèle agricole. À 13h30, la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, est notre invitée. Vos questions, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. La guerre en Ukraine et ses conséquences. 34 diplomates français expulsés de Russie. À Bruxelles, l'Europe présente son plan pour se passer des hydrocarbures russes. Un bond sur les énergies renouvelables. Parmi les objectifs, multiplier les panneaux solaires sur les bâtiments européens. Dans l'actualité encore, le retour de Valérie Pécresse au Conseil régional d'Île-de-France. Un candidat En Marche condamné pour violence conjugale mais investi aux législatives. Le patron de la REM le défend et ça passe mal. Un congé menstruel pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses, projet en Espagne. Et puis le coup du bouchon de pétillant dans l'œil, c'est l'histoire insolite et triste du jour. Le premier coureur noir venu d'Afrique, vainqueur d'étape, abandonne le Tour d'Italie cycliste. Vos chroniques, le festival de Cannes est ouvert, nous retrouverons Corinne Pélissier, le feuilleton dans les jardins familiaux de Lille, et dans C'est une chanson, le groupe Blur, Girls and Boys. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
34 degrés attendus à Avignon, Carpentras, Montélimar, jusqu'à 35 entre Gironde et Landes. Chaude, très chaude journée en France, dans le sud en particulier, Nîmes par exemple.
Ben ça en suit un peu, hein. Parce que d'habitude c'est pas si chaud à cette époque.
Genre, moi je suis pas jeune et ça me fatigue, pas admis de rien. Voilà, j'ai plutôt admis de dormir.
Ils se plaignent toujours, les gars. Quand il fait froid, quand il fait chaud, il fait chaud. Et là, c'est impeccable, là.
Je profite du soleil, une crème pour le visage anti-vieillissement UV, la belle vie, la vie du Sud.
On passe dans les rues à l'ombre, les brumisateurs, et puis voilà.
Hein. Là, quelques propos recueillis par Grégory Julien, France Bleu, gare Lozère, entre 28 et 33 degrés attendus cet après-midi en moyenne en France. Alors, pour préciser les choses, l'épisode de chaleur en cours n'est pas une canicule, comme celle de l'été 2003, pas de dôme de chaleur, mais un épisode exceptionnel pour un mois de mai. Et sous l'effet du dérèglement climatique, ils sont appelés à se répéter ces épisodes et les solutions pour s'adapter sont indispensables. Direction Rouen, moins chaud cet après-midi, 26 degrés. Mais habituellement, en cette saison, on est à 17 dans la préfecture de Seine-Maritime. Reportage de Célia Kiré, tourné il y a quelques jours pour rafraîchir l'atmosphère et faire revenir des espèces. Le maire mise, Célia, sur la nature en ville.
Le jardin Saint-Sever, rive gauche, certaines feuilles commencent déjà à tomber, Rouen doit s'adapter. La ville a racheté un parc privé pour laisser naître une mini-forêt. Julien Gossin, c'est spécialiste de cette renaturation à la mairie.
On a du tilleul, on a de l'érable champêtre, et ces arbres sont des arbres spontanés amenés par les oiseaux. On laisse toute cette nature s'exprimer pour pouvoir renforcer la biodiversité. Autrefois, quand on abattait un arbre, on l'évacuait, et ben là non, on laisse l'arbre mort en place. On a des températures sur des aires bétonnées hein, qui arrivent à 60 degrés. Au sol. Alors qu'ici, non, on monte jamais plus de 25, 27 au sol. C'est vraiment très efficace.
Le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, investit 12 millions d'euros par an pour cette renaturation contre 300 000 euros auparavant. 2500 arbres ont été plantés cet hiver.
C'est vraiment l'enjeu du siècle. En surface végétalisée, naturelle, on est à 17% dans la ville. Notre objectif, c'est d'arriver à 30%. On est directement concerné par le réchauffement climatique. Le risque inondation, on est directement concerné et fortement concerné. Soit on fait l'autruche, soit on prend le problème à bras-le-corps, sachant qu'il y a des conséquences qui sont déjà irréversibles. Il y a certains types d'arbres qu'on ne peut plus planter à Rouen parce qu'on sait que ça ne sert plus à rien en réalité.
La nature est bien perçue ici comme une assurance face au changement climatique. À l'échelle de la planète, il faudrait réensauvager une superficie grande comme la Chine pour limiter la hausse de la température à 2 degrés.
En plus de nature en ville, la maire de Paris, Anne Hidalgo, annonce ce matin vouloir faire du périphérique une ceinture verte, 10 hectares de végétation, 70 000 arbres et moins de voies de circulation. S'adapter et changer, la question est posée au monde entier. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
L'Organisation météorologique mondiale publie son état du climat mondial 2021 et les quatre indicateurs clés du changement climatique ont battu de nouveaux records l'année dernière.
Oui, ce qui est important de noter, c'est que les sept années les plus chaudes depuis qu'on a des mesures météorologiques, c'est-à-dire depuis 150 ans environ, eh bien ce sont les 7 dernières années. Le moteur derrière ce réchauffement climatique, ce sont les concentrations de CO2 mais aussi de méthane dans l'atmosphère qui augmentent année après année. La concentration de CO2 dépasse les 413 parties par million en 2020. La dernière fois que la Terre a connu pareille concentration, c'était il y a 2 ou 3 millions d'années. Parmi les autres indicateurs plus qu'inquiétants, la température de l'océan a atteint un nouveau record l'année dernière. Le niveau de la mer augmente plus rapidement que les décennies précédentes en raison de la fonte des calottes glaciaires. 4,5 mm par an, ça a l'air de rien, mais sur 30 ans, ça fait 13,5 cm, en gros, la longueur de ce stylo. Rappelons que l'océan permet d'atténuer le réchauffement climatique car il absorbe un quart des émissions mondiales de CO2, mais cela a un coût. Le CO2 perturbe la chimie de l'océan, l'acidifie, avec des conséquences néfastes sur de nombreux organismes marins et notamment sur les coraux.
Le système énergétique mondial est en faillite et nous pousse chaque jour un peu plus vers une catastrophe climatique, dit le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Le temps nous est compté, ajoute-t-il. Un avenir durable passe forcément par le renouvelable. La chaleur et la sécheresse, quelles conséquences pour l'agriculture? Comment changer le modèle agricole? À 13h30, notre invitée est la présidente de la FNSEA, Christiane Lamberge. J'attends vos questions et témoignages. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Entre France et Russie, c'est le froid qui gagne au fil des semaines de guerre en Ukraine. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Bruno.
Correspondant de France Inter en Moscou, en direct avec nous. L'information, Sylvain, vous a été confirmée il y a quelques minutes. Plusieurs dizaines de diplomates français sont expulsés de Russie.
Oui, effectivement, l'expulsion de diplomates français qui était attendue depuis début avril, depuis que la France avait décidé d'expulser dans un premier temps 35 diplomates russes en poste à Paris avant d'en ajouter 6 quelques jours plus tard, 41. Donc, en expliquant d'ailleurs côté français, ce qui est assez rare, qu'ils étaient soupçonnés de se livrer à des activités d'espionnage, on attendait donc la mesure de représailles côté russe. Elle est arrivée ce matin. Pierre Lévy, l'ambassadeur de France, a été convoqué au MID, au ministère des Affaires étrangères russe, pour se voir remettre une liste de personae non gratae, comme on dit en diplomatie, et à l'arrivée, disons que c'est une réplique plutôt modérée des Russes. Non seulement Moscou n'expulse que, entre guillemets, 34 diplomates français contre 41, mais surtout, d'après nos informations, les postes les plus sensibles de l'ambassade de France, la chancellerie politique, ont été épargnés. Ce sont plutôt des profils techniques qui sont expulsés, notamment dans le secteur des relations économiques, un peu comme si l'on souhaitait malgré tout maintenir des canaux de discussion du côté de Moscou, canaux qui, ceci dit, ne servent pas beaucoup en ce moment. La Russie, qui expulse malgré tout à tour de bras des diplomates étrangers en ce moment. L'ambassadeur d'Espagne a également été convoqué ce matin, puisqu'en tout, plus de 250 diplomates russes ont été renvoyés dans leur pays le mois dernier par de nombreux pays occidentaux.
Et à Paris, le Quai d'Orsay condamne fermement cette série d'expulsions. La décision des autorités russes ne repose sur aucun fondement légitime. Et l'Europe n'a toujours pas réglé le problème majeur de sa dépendance aux hydrocarbures russes, sujet de long terme. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
En direct de Bruxelles, la Commission européenne présente son plan échéance 2027. Il y a trois axes, Angélique. D'abord, faire affaire avec de nouveaux fournisseurs.
Oui, parce que pour se passer du gaz russe, il faut plus de gaz naturel liquéfié ou d'hydrogène et cela nécessite d'adapter les infrastructures. La Commission va donc autoriser les États membres à réorienter certains fonds européens qu'ils touchent déjà ou à utiliser une partie des prêts du plan de relance post-Covid qui n'ont pas été utilisés. Alors, en veillant tout de même à ne pas surinvestir par exemple dans des terminaux gaziers car ils ont vocation à disparaître, on accepte une petite entorse au pacte vert, reconnaît une source européenne. Mais en accélérant en parallèle, franchement, la transition vers les renouvelables.
Oui, les renouvelables, c'est la proposition la plus forte du plan.
Oui, la Commission veut doubler sur les toits européens le nombre de panneaux solaires d'ici 3 ans en mixant incitation et obligation. Obligation de panneaux solaires dès 2026 sur les toits des nouveaux bâtiments publics ou commerciaux de plus de 250 mètres carrés. Les maisons neuves seront concernées en 2030, dans 8 ans. Elle propose aussi de simplifier les procédures d'autorisation pour déployer les parcs d'éoliennes plutôt que de lancer une étude d'impact à l'arrivée d'un promoteur. Les États européens pourraient identifier en amont les zones propices et respectueuses de l'environnement. Enfin, la Commission veut promouvoir, troisième axe, les économies d'énergie, privilégier le vélo ou le train à la voiture, baisser la vitesse sur les routes, le chauffage dans les maisons, reprendre du télétravail. 10 mesures de ce type permettraient d'économiser très facilement 5% de notre consommation annuelle de gaz, rappelle-t-elle dans sa communication.
Merci Angélique Bon. En direct de Bruxelles, ce mercredi est un jour important à au moins trois égards dans le conflit en Ukraine. D'abord, on est proche de la reddition des derniers soldats ukrainiens à Mariupol. Ils étaient environ 1 000 000 la semaine dernière, selon Kiev. À en croire Moscou, 959 se sont rendus depuis lundi. Pas de chiffres côté ukrainien. Pour se protéger de la Russie, les candidatures à l'OTAN de la Suède et de la Finlande sont officiellement déposées aujourd'hui. Et puis à Kiev même se tient le premier procès pour crime de guerre depuis le 24 février. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour.
En direct, vous aussi, depuis Kiev, avec Laurent Macchietti, le soldat qui est jugé pour crime de guerre à 21 ans, accusé d'avoir tué un civil désarmé. Le procès va s'ouvrir.
Oui, il y a beaucoup de journalistes ukrainiens présents devant ce petit tribunal situé à l'ouest de Kiev pour assister à ce procès inédit dans le pays. Le jeune sergent russe qui est jugé à partir d'aujourd'hui a déjà reconnu avoir tué un villageois de 62 ans dans la région de Soumy au nord-est de l'Ukraine. C'était fin février. Il était accompagné de 4 autres militaires, mais il est le seul à comparaître pour crime de guerre, les autres ayant réussi à prendre la fuite. Ce procès pourrait être le premier d'une longue série. C'est ce qu'a laissé entendre la procureure générale d'Ukraine hier, qui a donné des chiffres. 11 000 enquêtes pour crimes de guerre ont été ouvertes et 40 suspects ont déjà été arrêtés. Aucun bourreau, aucune personne qui a commis des crimes n'échappera à la justice, a-t-elle dit.
Valérie Crova en direct de Kiev avec Laurent Macchietti pour France Inter. Un procès en pleine guerre. Est-ce que cela ne ressemble pas tout de même à de la justice expéditive? Quel est l'intérêt de cette audience? Question soumise par Thibault Lefebvre à Reed Brody. Il est membre de la Commission internationale des juristes, qui est une organisation de défense des droits de l'homme.
Le temps de la justice et le temps de la guerre sont très différentes, mais ici, l'Ukraine veut raccourcir et veut opposer aux armes le droit. On peut s'étonner que ce cas soit le premier, parce que c'est le cas d'un petit soldat qui aurait reçu des ordres. C'est un cas qui n'est pas évident. Il paraît qu'il a reconnu les faits, mais les faits sont compliqués. S'il a reçu des ordres, qu'est-ce qu'il savait? Donc, c'est un cas assez intéressant. C'est très important pour l'Ukraine que ce cas puisse se dérouler parfaitement. Il y a des organisations de la société civile ukrainienne qui vont observer le procès. C'est un des plus importants procès parce que ça va nous donner une idée de comment peut fonctionner la justice ukrainienne en ce moment. Si l'Ukraine veut utiliser l'arme de droit contre la Russie, il faut qu'elle soit utilisée vraiment à perfection ici.
Et par ailleurs, ce matin, Human Rights Watch, dans un nouveau rapport, accuse les Russes d'actes de torture, exécutions sommaires et autres abus graves. Une quarantaine de cas dans 17 villages évoqués par l'organisation Human Rights Watch. Elle appartient désormais à la catégorie des grands abîmés de la politique. Valérie Pécresse retrouve aujourd'hui le Conseil régional d'Île-de-France dont elle est présidente. Il y a un peu plus de 5 semaines, elle incarnait le crash le plus magistral de la droite à cette élection, 4,78% des voix. Depuis, il y a eu un appel aux dons pour rembourser ses frais de campagne, des vacances, de premières retrouvailles avec la presse dans le potager du roi au château de Versailles. Bonjour Anne Souhaitemont.
Bonjour Bruno.
Vous avez suivi la campagne de Valérie Pécresse, elle essaye de tourner la page mais c'est difficile.
Oui, alors elle va bien. Bruno, en tout cas officiellement, Valérie Pécresse a pris des vacances, 3 semaines, elle serait aujourd'hui parfaitement sereine et reposée. Voilà, pour la carte postale, en coulisses, c'est un peu moins idyllique. Elle a à peine décroché, s'est plongée dans le travail, mais ça a été très violent, admet un proche. D'où la présentation au vote aujourd'hui et demain au Conseil régional, en plus de mesures prévues de longue date pour les réfugiés ukrainiens, d'un bouclier anti-inflation élaboré ces dernières semaines. Valérie avait besoin de concret, raconte cette même source. Car la lourde défaite, vous l'avez dit, a laissé des traces. Alors pas vraiment de conséquences politiques, hein. A priori la majorité au Conseil régional est solide, mais des conséquences financières. Valérie Pécresse a été très mobilisée, obsédée, dit certains, par son appel aux dons, endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. L'opération a été finalement plutôt concluante. Il lui reste 15 jours pour trouver 1 million. Quid de la politique nationale? Alors que l'un de ses proches, le député Romain Reda, a franchi le Rubicon pour rejoindre Emmanuel Macron, Valérie Pécresse a fait quelques apparitions pour soutenir des candidats de droite aux législatives. Elle a malgré tout félicité lundi Elisabeth Borne. Entre techno, elles se comprennent se moque un élu qui ne voit plus aucun avenir national à cette grande brûlée de la présidentielle.
Et parmi les questions que se pose la droite près d'un mois et demi après, combien de ses membres accepteront d'entrer dans le nouveau gouvernement ou la majorité présidentielle? Parmi les cas regardés de très près, celui de Damien Abad, président du groupe LR dans l'Assemblée sortante. La République En Marche n'investit personne face à lui dans sa circonscription de l'Ain pour les législatives. Hier, devant ses collègues députés LR, il a promis de clarifier sa situation d'ici à vendredi, autrement dit quand on aura la composition du gouvernement. C'est attendu, si ce n'est aujourd'hui, en tout cas avant la fin de la semaine. Une surprise est toujours possible. Marine Le Pen était ce matin l'invitée de France Inter. Plus de trois semaines après le second tour de la présidentielle, elle se dit prête à s'opposer dès la première seconde à la politique que va mener Elisabeth Borne.
En réalité, Madame Borne, c'est Monsieur Macron bis. C'est la même. C'est le même profil, ce sont les mêmes idées, c'est la même vision froide, administrative, technocratique, et en réalité, les mêmes réalisations brutales. Donc, je pense qu'Emmanuel Macron l'a choisi précisément pour mener cette brutalité sociale qui lui tient à cœur et qui va pouvoir s'exprimer très rapidement, à mon sens, par l'intermédiaire de cette réforme des retraites contre lequel nous allons évidemment nous battre avec la dernière énergie.
Et à propos de la réforme des retraites, le délégué général de la République En Marche, Stanislas Guérini, appelle à ouvrir les discussions avec les syndicats le plus rapidement possible. Il était ce matin l'invité de nos confrères de France Info, Stanislas Guérini. Et voilà ce qu'il dit à propos de Jérôme Perra, ancien conseiller de l'Élysée, investi par la République En Marche en Dordogne pour les législatives alors qu'il a été condamné pour violence conjugale. « J'ai pris du temps pour lire les attendus du jugement », dit Guérini, et c'est un honnête homme. À propos de Jérôme Perra, je ne le crois pas capable de violence sur les femmes. Il a pourtant été condamné, précisons que son ancienne compagne, victime, a également été condamnée dans cette affaire à des amendes pour des appels et des SMS malveillants. Mais Simon Le Baron, alors qu'on a reproché à la France Insoumise d'avoir tardé à débrancher Taha Bouaf, ce candidat un temps à Vénissieux, soupçonné d'agression sexuelle, eh bien les mots de défense de Stanislas Guérini passent mal ce matin.
En premier lieu, bien sûr, à la France Insoumise et plus largement à gauche. Quelle honte, quel naufrage, réagit la députée mélenchoniste Mathilde Panot, alors que le sénateur socialiste Rachid Temal dénonce, lui, des propos d'une violence inouïe. La NUP, d'ailleurs, va réclamer officiellement cet après-midi en conférence de presse le retrait de Jérôme Perra. Mais le malaise, voire l'indignation, gagne aussi les rangs de la majorité. Il y aura bien d'ailleurs une dissidence en Dordogne, puisque la députée LREM sortante Jacqueline Dubois est bien décidée à rempiler la candidature de l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron, dit-elle, affaiblit la majorité, et elle est loin d'être la seule à le penser. Nous avons eu tout à l'heure au téléphone un député qui préfère rester anonyme et qui est justement en campagne pour sa réélection, très en colère. Les déclarations de Stanislas Guérini ce matin, une grosse connerie, se désole ce marcheur, convaincu qu'il faut débrancher au plus vite Jérôme Perra. Comment justifier que l'on soutienne coûte que coûte un homme condamné à 3000 euros d'amende avec sursis pour avoir infligé 14 jours d'ITT à son ex-épouse? C'est la question que se pose ce midi bien des marcheurs, surtout quand Emmanuel Macron promet de faire à nouveau de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de son quinquennat.
L'une des décisions politiques marquantes de la semaine, c'est l'autorisation du burkini dans les piscines municipales de Grenoble. Cela divise le conseil municipal, mesure adoptée de justesse, 29 voix contre 27. Cela réactive l'idée de deux gauches irréconciliables sur le sujet de la laïcité. Voilà comment Laurence Rossignol, ministre des droits des femmes sous François Hollande, qualifie le maire de Grenoble, l'écologiste Éric Piolle.
Quel crétin ! D'habitude, on dit que l'extrême droite apporte dans les campagnes électorales le burkini, la burqa, ouais, le voile, le foulard, et on pense que ça pollue le débat politique. Eh bien, cette fois-ci, ça vient pas de l'extrême droite, ça vient d'un maire écolo de Grenoble. Sur le timing, je suis sidérée, ça pollue la campagne incontestablement, et puis sur le fond, il a tort. Notre position, elle doit être simple. La République protège la liberté de culte, la liberté de conscience. Elle protège les fidèles qui seraient menacés de par leur appartenance à une religion. Et elle doit résister aux revendications religieuses parce que c'est sans fin. Oui, c'est du prosélytisme. Il faut aller déstabiliser la République. Et je sais ce qu'il y a derrière parce que je connais ces associations. Elles ont un agenda. Aujourd'hui, c'est le burkini et c'est une victoire des intégristes, ce qui s'est passé à Grenoble. Ensuite, il y a la loi de 2004 sur le foulard à l'école, dans leur agenda, l'abrogation. Et enfin, l'obligation de neutralité des fonctionnaires, qui est aussi dans leur champ de vision.
Laurence Rossignol avec Caroline Roux ce matin sur France 2 à propos de droits des femmes. Tout autre sujet en Espagne. Le gouvernement a présenté hier un projet de loi inédit en Europe, un congé menstruel pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses. Isabelle Labéry.
Avoir ces règles, parfois, cela veut dire dire avoir des crampes violentes, des migraines insoutenables ou des nausées du matin au soir. Environ 15% des femmes subissent ces douleurs invalidantes. La coalition de gauche au pouvoir en Espagne souhaite donc qu'elle puisse poser des jours. Ça fonctionnerait exactement comme un arrêt maladie classique, sans limitation de durée, signé par un médecin et pris en charge par la Sécurité sociale. Irene Montero est la ministre de l'Égalité.
Se bourrer de médicaments pour pouvoir aller travailler, c'est fini. Cacher pendant plusieurs jours au travail qu'on est mal, ça aussi c'est fini. L'Espagne est le premier pays européen à reconnaître dans une loi que la santé menstruelle fait partie des droits de la femme.
Dans le monde, seuls 5 pays ont adopté le congé menstruel. Japon, Taïwan, Indonésie, Corée du Sud et Zambie. Au Japon, ce droit est inscrit dans la loi depuis 1947, mais dans les faits, une quantité infime de femmes y ont recours. La mesure n'est pas consensuelle. En Espagne, en tout cas, il y a débat au sein même du gouvernement. Certains craignent qu'elle crée de la discrimination, argument repris par les syndicats. Aux entretiens d'embauche, on nous demande déjà si on veut devenir maire, dit une représentante de l'UGT. Est-ce que la prochaine étape, ce sera de nous demander si nos règles sont douloureuses ? Malgré ces quelques voix discordantes, la majorité salue la fin d'un tabou nourri par plusieurs siècles de culture patriarcale.
Au Royaume-Uni, inflation de 9% sur un an, c'est du jamais vu depuis 40 ans. Conséquence, la hausse des prix de l'énergie en particulier. Quand un simple selfie vire au drame, le maire de Saint-Jouin-Bruneval, tout près d'Étretat, lance un appel à la vigilance. Pour ceux qui aiment se promener sur les falaises, depuis le début de l'année, 2 personnes sont mortes à Étretat en tombant des falaises en prenant une photo. Le maire intervient sur les réseaux sociaux. Il faut renforcer les mesures de sécurité sur la côte.
Il y a une forme d'empathie sur ce qui a pu se passer pour cette famille et pour cette personne en particulier. Le drame qui vient de se passer, j'espère qu'il va nous permettre collectivement d'amener des solutions d'information qui ne paraissent pas insurmontables à mettre en œuvre pour cet été. Des panneaux, des conseils, des gens qui pourraient informer les visiteurs de notre territoire à prendre conscience du danger. Vous êtes à 100 mètres de haut, vous arrivez sur un territoire, il y a une forme de... C'est à la fois majestueux, puis c'est une forme de vertige. En tout cas, si vous ne savez pas qu'il vaut mieux pas y aller avec un chien, que si vous avez des enfants, il vaut mieux les prendre dans les bras, ou que le vélo n'est pas préconisé sur des chemins glissants comme ça, évidemment, il y aura d'autres accidents. Et pour cet été, voilà, faut plus que ça se reproduise, ce genre de choses.
Le maire de Saint-Jouin-Bruneval, près d'Étretat, François Aubert, avec Steven Gualier. Idrissa Gueye, le joueur du PSG, a-t-il oui ou non accepté ou refusé de porter un maillot aux couleurs LGBT? C'est l'accusation. Le Conseil national d'éthique de la Fédération française de foot lui demande de s'expliquer.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvic.
Nous en venons à la chronique cinéma du mercredi. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour Bruno.
Chronique qui a une saveur particulière puisque vous êtes à Cannes, évidemment, pour nous faire vivre la 75e édition du festival ouverte hier soir avec un film qui est visible dans tous les cinémas. C'est la nouvelle comédie de Michel Hazanavicius, Coupé. Elle vous a plu manifestement.
On aurait pu penser que le genre était un peu passé de mode, mais le talent et l'humour surtout de Michel Hazanavicius font ici qu'on est complètement séduit et qu'on en redemande de l'hémoglobine, des bras coupés, des coups de hache et des jurons. C'est une comédie de zombies parfaite pour ramener le public en salle. Un film drôle, déjanté, malin, qui fait du bien. Surprenant dans sa construction, en tout cas au début de l'histoire. Bruno, surtout laissez-vous faire.
Bon.
Le résultat est habile, avec un plan séquence d'une maîtrise absolue. Un vrai propos aussi sur l'industrie du cinéma, la façon de produire, la place des plateformes. Il y a tout ce qu'on aime chez Hazanavicius, le comique de situation, les jeux de mots, les bonnes vannes, plein de références aussi à la pop culture, et en prime un casting très efficace. Romain Duris, Bérénice Bejo, Finnegan Oldfield. Pour un remake de film d'horreur en forme d'hommage au cinéma, le film d'origine n'est pas très vieux, il est sorti en 2017 au Japon, c'est un film étudiant que Michel Hazanavicius a revisité à sa sauce. Énorme coup de cœur.
Bon, Coupé, à voir donc dès aujourd'hui sur les écrans. Un autre film, la sélection cannoise, on pourra le voir dimanche. Lui, c'est le nouveau film de Serge Bozon, Don Juan.
Voilà, un personnage qui a décidément beaucoup inspiré les réalisateurs, incarné successivement au cinéma par Errol Flynn, Jack Weber, Johnny Depp et aujourd'hui Tahar Rahim dans une version chantée post-MeToo assez étonnante autour de la figure ici d'un Don Juan brisé par la femme qu'il a quittée, Tahar malheureux, l'œil vitreux, qui recherche sa dulcinée à travers toutes les femmes qu'il va croiser sur son passage, tout le contraire du prédateur cynique et manipulateur véhiculé depuis des années au cinéma, au théâtre ou à l'opéra.
Et troisième film de votre sélection, ce n'est pas une nouveauté, c'est même un ultra classique, La Maman et la Putain, Jean Eustache, et pourtant il fait l'actualité de Cannes. Ce film culte, noir et blanc, 3h40, découvert à Cannes il y a 50 ans, ressort au cinéma, nouvelle version.
Et je vous conseille, Bruno, de réserver tout de suite vos billets. Le film sort en salle le 8 juin.
Oui.
C'est un moment très attendu par les cinéphiles du monde entier, qui étaient nombreux hier pour découvrir la toute nouvelle version restaurée de ce film culte de la nouvelle vague. Jean-Pierre Léo, Françoise Lebrun, Bernadette Lafont, dans une romance à Saint-Germain qui avait fait scandale à Cannes en 73, mais remporté un grand prix spécial du jury. Une œuvre à regarder aujourd'hui avec un œil tout neuf, en oubliant les sifflets, en se concentrant sur le texte. Il y a 50 ans, tout cela pouvait paraître peut-être un peu trop libre ou insolent. Aujourd'hui, on y voit juste la patte d'un génie du cinéma, la vie. L'ensemble de son œuvre ressort en même temps en coffret DVD. C'est une bonne nouvelle car depuis plus de 40 ans, La Maman et la Putain étaient devenues quasiment introuvables.
Bon, et Corinne, vous montez dans un avion de chasse ou pas là ?
Ah, j'attends Tom Cruise, il vient me chercher.
Top Gun Maverick, c'est l'une des actualités du jour au festival. On vous retrouve très vite, merci Corinne Pellissier. On parlait hier de la fréquentation des cinémas, un tiers de moins qu'avant la pandémie. Les plateformes type Netflix sont accusées d'accaparer les spectateurs devant le petit écran plutôt que le grand. Plateformes de plus en plus nombreuses. Est-ce qu'on arrive à un point d'arrêt de leur croissance ? Netflix a cette année 25 ans et il fête cet anniversaire avec un plan de licenciement, le premier en 10 ans, 2% de la masse salariale, 150 personnes licenciées, essentiellement aux États-Unis. Cela quelques semaines après avoir annoncé une baisse de son nombre d'abonnés. Bonjour Alexandra Akoun.
Bonjour.
2% de salariés en moins pour faire des économies, cela veut-il dire que Netflix s'inquiète pour son avenir ?
C'est sûr que licencier 2% de sa masse salariale quand on perd 200 000 abonnés, ça peut sembler excessif, surtout quand il vous en reste 221 million à travers le monde, mais c'est bien le signe en effet que le modèle Netflix commence à avoir du plomb dans l'aile, et la guerre en Ukraine n'arrange rien. En fermant ses services en Russie mi-avril, le mastodonte a dit au revoir à 700 000 clients de plus, et prévoit pour le deuxième trimestre une perte de 2 millions d'utilisateurs. C'est donc une tendance de fond. Le vrai problème, c'est la multiplication des offres de streaming, la montée en puissance de concurrents aux reins solides comme Disney, des concurrents qui en plus récupèrent petit à petit leur production à succès. Si vous êtes fan de Daredevil par exemple Bruno, eh bien sachez que comme le reste des séries Marvel Live Action, celle-ci quittera Netflix pour rejoindre Disney fin juin. Et puis si on regarde le marché, Netflix propose l'offre la plus onéreuse. La plateforme réfléchit donc à lancer des abonnements moins chers, financés en partie par la publicité. Surtout, elle veut faire la chasse au partage de comptes. 100 millions de foyers auraient accès à ses services sans payer.
Et terminons, ça pourrait être un épisode Netflix, l'histoire à la fois réjouissante et triste du jour. C'est dans le monde du vélo, le Giro en Italie. Pour la première fois, un coureur noir d'Afrique remporte une étape sur un grand tour cycliste. Il est érythréen, s'appelle Binyam Girmay. C'était hier à Jesi, sur la côte adriatique en Italie. Eh ben, ça méritait des bulles sur le podium Prosecco. Le malheureux a pris le bouchon dans l'œil, hôpital et abandon, Nicolas Perronnet.
Oui, sur le podium protocolaire, Binyam Girmay est tout sourire. Hein, il savoure cette première victoire sur un grand tour, effectivement, jusqu'au moment fatidique, l'ouverture du magnum de Prosecco. Posé à ses pieds, il se penche, visage au-dessus de la bouteille lorsqu'il la débouche. Erreur de débutant.
Questo successo importantissimo, un successo che aveva già sfiorato alla prima tappa.
Voilà, si vous avez été attentif, Bruno, vous avez entendu le bruit du bouchon. Alors, le jeune coureur érythréen, professionnel jusqu'au bout, hein, pour la fin du protocole, œil gauche fermé, sourire crispé avant de rejoindre directement l'hôpital, car la douleur s'intensifie, les examens révèlent une hémorragie derrière l'œil, et ce matin, pas de Binyam Girmay au départ de la 11e étape.
Malheureusement, je n'ai pas pris le départ car mon œil a encore besoin de repos, mais ce n'est que le début, il y aura d'autres victoires.
Voilà, avant cet incident et cette victoire historique, ouais. Hein, Binyam Girmay avait déjà tapé dans l'œil de beaucoup de monde, premier coureur africain à inscrire son nom au palmarès d'une classique après sa victoire en mars sur Gent-Wevelgem. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs sprinteurs punchers du peloton. Il faudra juste progresser dans l'ouverture des bouteilles pour ses prochaines victoires.
Et espérons qu'il se rétablira vite. Le français Romain Bardet, par ailleurs, est toujours troisième de ce Tour d'Italie. C'est l'espagnol Juan Pedro Lopez qui a le maillot rose. Dans un instant, la météo particulièrement importante de Sébastien Léas aujourd'hui.
L'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios.
Bouygues Télécom.
David déménage à Dijon et désire doter son domicile de la fibre sans trop dépenser. Eh bien David, ce qui suit va vous plaire.
En ce moment, chez Bouygues Télécom, la fibre est à seulement 15,99€ par mois pendant un an, puis 30,99€ par mois avec Bbox Fit. Eh oui, la fibre à 15,99€. Profitez-en maintenant, les deux premiers mois sont remboursés. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition, sous réserve d'éligibilité et de raccordement. Engagement 12 mois, conditions sur bouyguestelecom.fr.
Voyons le temps de ce jour.
La météo, avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
On va en parler avec notre invité dans un instant, Christiane Lambert de la FNSEA. Forte chaleur cet après-midi, Sébastien Léas.
Oui, chaleur possiblement record même. Les températures maximales montent encore d'un cran par rapport à hier. On attend 27 degrés à Lille, 29 degrés à Rennes et Paris. La barre des 30 degrés sera dépassée dans de nombreuses régions. 30 degrés à Metz, Dijon et Montpellier. 31 degrés à Nantes et à Limoges. 32 degrés pour Biarritz, Lyon et Nîmes. Des pointes à 34 degrés sont attendues à Avignon et 35 degrés dans le bassin d'Arcachon. L'ambiance est quand même plus respirable sur les plages de la Côte d'Azur et de la Manche, mais même les 21 degrés attendus à Brest et à Calais ou encore les 23 degrés prévus à Nice cet après-midi sont des valeurs 3 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. Évidemment, c'est le soleil qui va s'imposer et irradier l'ensemble du pays cet après-midi, à l'exception de l'ouest de la Bretagne qui est en marge d'une perturbation qui aura donc un ciel un peu plus nuageux avec quelques gouttes. Et puis on va quand même suivre une évolution orageuse cet après-midi sur les Alpes du Sud et le nord du Massif central ainsi qu'entre les pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie avec des orages potentiellement forts. Attention aussi en fin de journée entre le Pays Basque et les Charentes puisqu'on attend un coup de galerne qui se traduira par des orages très actifs, parfois porteurs de grêle et accompagnés de violentes rafales de vent. Prudence donc.
La chaleur, merci Sébastien Léas et ses conséquences tout de suite.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
Parce que cette chaleur va aggraver la sécheresse qui touche donc la France dès le mois de mai cette année. Une calamité de plus pour les agriculteurs qui doivent déjà affronter en vrac les conséquences de la guerre en Ukraine, la grippe aviaire, l'inquiétude pour la démographie agricole dans les années à venir. La moitié des agriculteurs français arrivent à l'âge de la retraite dans les 5 ans ou un peu plus. Alors quel constat, quelle piste pour limiter la casse? 01 45 24 7000 pour vos questions et pour dialoguer avec notre invité jusqu'à 13h45. Bonjour Christiane Lambert.
Bonjour.
Présidente de la FNSEA, principal syndicat agricole. État de la sécheresse avec vous pour les agriculteurs, où est-ce qu'elle frappe le plus les agriculteurs en ce moment?
Nous avons 15 départements en restriction d'irrigation qui attestent du degré de gravité. Nous avons des poches par département parce que les orages sont localisés.
Oui.
Mais par contre, c'est en dentelle un petit peu partout en France. Il y a des régions très touchées, Sud, Occitanie, mais aussi Charente, Charente-Maritime, Maine-et-Loire, Indre, Charente, Indre, Indre-et-Loire. Et puis de l'autre côté aussi, du côté de l'Est, qui est une région qui est souvent touchée par la sécheresse. Donc ça affecte vraiment beaucoup de secteurs.
J'entends Maine-et-Loire, par exemple, c'est pas des départements qu'on a l'habitude d'entendre touchés par de la sécheresse, en tout cas dès le mois de mai par exemple.
C'est le mien, c'est mon département. Non, d'habitude la sécheresse arrive en juillet, vous avez raison de dire que c'est une sécheresse précoce et c'est en cela qu'elle est problématique. Elle affecte les récoltes à un moment où le mois de mai, nous le savons, c'est le moment de l'explosion de la nature. Les belles températures reviennent, la nature redémarre, que ce soit l'herbe, les champs, les légumes, etc. Et habituellement il y a des réserves hydriques dans les sols, là il n'y en a pas parce qu'on a un déficit de pluviométrie depuis novembre de 25% en France, 33% sur certains territoires de déficit d'alimentation des sols en eau. Donc aujourd'hui, la sécheresse, elle est incrustée parce qu'elle est profonde. Oui. Et quand il y a des orages, surtout quand ils sont violents, ils humidifient 5-10 cm, mais pas plus. Donc la crainte, c'est effectivement qu'on manque de réserve d'eau et qu'en plus, ces chaleurs, alors incroyable, hein, 32 degrés, c'est du jamais vu, ça fait un coup de chaud sur les cultures qui bloquent le développement.
Les plus touchés sont les céréales à ce stade de l'année?
À ce stade de l'année, les plus touchés, céréales d'hiver, c'est-à-dire le blé, les orges qui sont implantés depuis l'automne, les grains sont formés, les épis sont formés, mais le remplissage ne se fait pas. Tout est bloqué. J'ai fait un tour de plaine de mes blés ce week-end. Chez moi, ils servent à alimenter les porcs, donc qu'il y aura moins de récolte pour les ports. Quel sera l'impact ? Pour l'instant, c'est -10, -20%. Ça peut basculer dans les 15 jours. On dit ça depuis 10 jours, mais malheureusement, la météo nous annonce encore des jours difficiles et très chauds. Donc l'inquiétude dans la plaine est très forte. Et pour l'herbe, il n'y avait pas jusque-là de difficulté parce que la pousse de l'herbe était normale autour du 5 mai. 70% de la première coupe d'herbe, c'est 70% de l'année. Oui. Donc les agriculteurs sont très regardants sur cette première coupe. Ils l'ont réalisée beaucoup plus tôt, 3 semaines d'avance pour la réalisation des travaux. Et maintenant, s'il pleut, tout redémarre. Malheureusement, là où les sols sont peu épais, il y a déjà des zones sèches.
Alors, solution contre la sécheresse. Bonjour Elisa. Vous êtes au standard, vous nous appelez de Bar-le-Duc, nous vous écoutons.
Quid des méga-bassines, ces bassins de rétention d'eau géants alimentés par des pompages profonds dans les nappes phréatiques qui ne sont pas rechargées? Est-ce la solution miracle?
Alors, Christiane Lambert, ça fait débat, notamment dans les Deux-Sèvres, pas très loin de chez vous, à la fois une solution pour retenir l'eau et en même temps, sur le long terme, des conséquences écologiques néfastes. Qu'en dites-vous?
Alors d'abord, les bassines, lorsqu'elles sont réalisées après des études hydrologiques et topographiques plus précises qu'il y a une dizaine d'années. Donc ce ne sont plus les mêmes réserves d'eau qu'il y a 10 ou 20 ans. Deuxième chose, la France ne capte que de 1,7% de l'eau de pluie, quand l'Espagne en capte 20%. Aujourd'hui, ce sont les Pays-Bas et le Danemark qui ont plus construit de réserves d'eau que la France. C'est-à-dire, dans certains pays, ils ont compris que le changement climatique nécessitait de stocker plus d'eau quand il y a des pluies diluviennes notamment. C'est ce que nous demandons, stocker les pluies diluviennes. À Angers, nous avons eu des inondations l'année dernière. 3 heures de pluie, quand la Loire est vraiment déchaînée et très forte, suffisent à tous les irrigants du Maine-et-Loire. Donc on peut stocker ces eaux diluviennes. Quand on pompe...
Au risque à plus long terme de manquer d'eau.
Alors, mais quand on la pompe sur les eaux diluviennes, cette eau, de toute façon, elle va à la mer. Parfois, elle fait même des gros dégâts, parce que ce sont des flux importants. Elle déborde, elle crée des dégâts. Pomper dans les nappes, c'est encadré. Donc, il n'y a pas les dégâts. Je sais que les militants, parce qu'ils militent, ont annoncé des chiffres et des scénarios assez dramatisants.
C'est vrai que ça fait débat, les bassines. Il y a des militants des deux côtés.
Bien sûr, il y a des militants des deux côtés. Mais vous savez, le climat change. On doit changer. Quand on va avoir -20, -30% de récolte et que l'alimentation va augmenter de 15-20%, je pense qu'il y aura d'autres débats. Certains pays aujourd'hui qui ont peur de connaître la famine, comme le Maroc, l'Égypte, etc., développent des programmes hydrogéologiques extrêmement importants, justement, hydrographiques, pardon, pour justement trouver des solutions. On ne peut pas avoir d'agriculture sans eau.
Quand on dit on doit changer, justement, à propos de l'eau, est-ce qu'on peut continuer en France à travailler autant le maïs très gourmand en eau, par exemple, dans des régions qui en manquent de plus en plus, par exemple les Charentes?
Alors, le maïs est une plante qui consomme moins d'eau que les autres, mais elle en a besoin l'été. Et donc, alors la solde de maïs déjà en France n'augmente pas, elle régresse. La majorité du maïs, il est cultivé pour l'élevage, majoritairement sur la façade atlantique dans le Grand Ouest, également dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, et ça fait des bovins, le bœuf de Bazas, le foie gras, etc. Là, c'est le canard qui le valorise. Les agriculteurs aujourd'hui, dans leur choix de parcelles, sont plutôt sur des parcelles propres aux terres de maïs. Il y a indéniablement, depuis une dizaine d'années, des évolutions. J'ajoute que, grâce à la sélection variétale, on a aujourd'hui des maïs et des blés qui sont plus résistants à la sécheresse. Avec la même eau, la même quantité d'eau, on produit 30% de plus. C'est-à-dire qu'on a optimisé de 30% grâce à la recherche. On met des sondes capacitives dans les sols. On est capable de mesurer le degré d'humidité dans les sols. On n'apporte que l'eau nécessaire, c'est-à-dire pas de façon générale et partout pareil. Donc c'est très précis et ça nous a permis d'optimiser. On est conscient de la rareté de la ressource. Alors il y a d'autres techniques. Par exemple, le non-labour. On ne laboure pas les terres, on ne réouvre pas les sols, on garde l'humidité dans les terres. Ça, c'est une technique qui se développe. Et pour tous ceux qui sont pas irrigants, c'est-à-dire 90% des agriculteurs, il y a seulement 6% des terres françaises qui sont irriguées. 6%. Et on en parle comme si c'était 50%. Bon. Donc moi, je pense à tous les autres, les 94%, et il faut qu'on leur trouve des solutions aussi.
On retourne au standard. Marie est avec nous. Vous êtes agricultrice dans l'Orne, Marie. Bonjour.
Oui, bonjour. Je vous remercie. J'ai une question sur les méthaniseurs. Et voilà ma question, je voulais savoir si l'avis de madame sur la cohérence qu'il y a à développer ces méthaniseurs qui produisent du gaz à partir de denrées agricoles et alimentaires, comme le maïs ou le blé, alors qu'on nous annonce par ailleurs une grande pénurie, une grosse pénurie de denrées alimentaires et agricoles à cause du climat, mais aussi à cause de la situation et de la guerre en Russie, en Ukraine.
Christiane Lambert, les méthaniseurs, voilà un sujet qui monte dans le monde agricole.
Oui, et en France, nous n'avons que 2% de la surface des cultures qui va dans les méthaniseurs, donc c'est pas 15 ou 20%. Il y a dans la loi l'obligation de ne pas incorporer plus de 15%, et actuellement, il y a des dispositifs de contrôle qui sont en train de se mettre en place. Mais il ne vous a pas échappé que dans les débats du moment, il y a un problème sur la sécurité alimentaire, également sur la sécurité énergétique. La France importe 23%, dépend pour 23% de son pétrole de la Russie, du gaz aussi, qui a été multiplié par 7, pour faire de avoir des méthaniseurs, c'est faire du gaz vert. L'Europe a voté récemment la nécessité de doubler la production de gaz, y compris des gaz renouvelables. Donc il faut mettre des curseurs, mais on ne peut pas dire on ferme la porte. Et la méthanisation, elle est faite aussi à partir de déchets verts des villes, de boue, elle est faite aussi à partir de déchets d'abattoirs, de graisses d'animaux. On valorise tous les produits biosourcés grâce aux méthaniseurs.
Et cela participe tout de même à des émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture française, 20% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il n'y a pas une adaptation et un changement profond de modèle à mener, Christiane Lambert?
Alors, nous sommes le troisième secteur émetteur, après le logement et le transport, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire. C'est manger, c'est l'alimentation, donc c'est indispensable. Nous avons déjà travaillé depuis pas mal de temps, et par exemple en production laitière, en faisant le bilan carbone à la fois des vaches, des prairies, etc., on est capable de produire aujourd'hui un litre de lait avec 23% de gaz à effet de serre de moins qu'il y a 15 ans. Parce qu'on a optimisé la conduite du troupeau, l'alimentation. Donc on diminue nos émissions.
Ce sur quoi vous misez, au fond, c'est sur les progrès techniques, plus qu'un changement profond du modèle agricole qui passerait, par exemple, par une moindre production, moins de production de viande, pour vous, la productrice de porc.
Attendez, produire moins aujourd'hui, produire moins, c'est produire de la faim. Tout le monde parle de la rareté. Là, on va perdre 50% du blé ukrainien. On voit aujourd'hui, avec la grippe aviaire, 16 millions de poulets abattus. On va manquer de poulets, les prix vont augmenter. Il y a même des questions par rapport au cahier des charges. Est-ce qu'on va pouvoir maintenir le haut niveau? Il y a des pays qui sont en famine annoncée, ouragan de famine annoncé par la FAO. L'heure n'est pas à produire moins. L'heure est à produire plus et mieux et plus durable. Et on sait le faire.
Donc, même quand
aussi,
la plupart des analystes, Christiane Lambert, j'entends votre réponse, disent réduire l'empreinte carbone, ça passe par une réduction de la production animale.
Aujourd'hui, il y a déjà une réduction de la consommation de viande. Vous le savez certainement, depuis 10 ans, la consommation de viande a baissé de 12%.
En France?
Oui, mais en Europe aussi. Elle augmente énormément dans tous les pays.
En Chine,
entre autres, qui a absorbé toute la viande il y a 2 ans. C'est aussi ce qui a provoqué les hausses que l'on a connues. Donc, les pays qui ont des menus très végétalisés aspirent à manger de la viande. Et en Europe, chez les populations CSP++, hein, les catégories les supérieures, il y a une aspiration à une alimentation plus végétale. Alors, c'est vrai qu'il y a une diminution de la consommation de viande. Il y a aujourd'hui des alternatives. En manger moins, mais mieux. Quelle viande? Quand on mange de la viande française produite à partir de produits d'alimentation cultivés sur nos sols. Moi, j'élève des porcs, mais qui mangent le blé, le maïs, produits sur l'exploitation. Et qui sont même sur la litière de paille, produits sur l'exploitation. Donc, il faut bien différencier les viandes que l'on importe de milliers de kilomètres et que dans le bilan carbone épouvantable. Mais là, c'est aussi un appel aux consommateurs français. Vos achats sont vos emplois. L'agriculture a besoin de ce patriotisme.
Et de votre point de vue, pas de baisse de production animale, on a bien compris.
Non, monsieur, c'est pas ce que j'ai dit. Ne faites pas une conclusion que j'ai pas dit. Il y a aujourd'hui déjà une baisse de la production. Il y a moins 12% de consommation sur les 10 dernières années. Sur la dernière année, moins 3% de consommation de viande. Donc en France, nous avons déjà ce tassement.
Comment se passent les négociations commerciales avec la grande distribution ?
Mal. Je peux en rester là. Non, c'est difficile. Pourquoi? C'est difficile parce que nos grands distributeurs en France, ils sont au nombre de 6. Il y a 400 000 agriculteurs, 15 000 industries, 6 négociateurs. C'est très difficile.
Est-ce que vous êtes en contact direct avec eux ou est-ce que ça passe par des intermédiaires?
Alors, en tant que présidente de la FNSEA, je suis en contact direct avec eux. En tant que productrice de porc, il y a d'abord ma coopérative qui transforme les porcs, puis qui les vend ensuite. Et donc, les industriels qui sont entre les producteurs et les distributeurs ont un rôle majeur à jouer et nous appellent parfois au secours en disant « SOS, on n'arrive pas à passer les hausses nécessaires ». Quand on a toutes les hausses sur les engrais, les charges, etc., il faut que ça aille jusqu'au bout. Et les distributeurs sont habitués. On a eu en France 8 années de baisse de prix. 8 années. Moins 1% par an. Pas étonnant qu'on perde des exploitations et qu'il y ait des faillites. Pas étonnant qu'on perde des producteurs de fruits et qu'on importe de plus en plus de fruits.
Et là, pourquoi ça se passe mal, là, les actuelles négociations? Qu'est-ce qui se passe mal?
Augmenter les prix, c'est contre leur culture. Ils ont construit tout leur business model et leur promotion et leur image sur « je suis le moins cher, venez chez moi ». Je donne pas de nom. Et aujourd'hui, ils sont prêts à tout pour continuer à être les moins chers. Quitte à faire venir des poulets de Roumanie, moins chers, parce qu'ils viennent de Roumanie. pas le même bien-être animal, pas les mêmes conditions d'élevage, pas le même coût du travail dans les
abattoirs.
Donc
il y a un vrai blocage dans les négociations en ce moment.
C'est très très difficile et beaucoup d'industriels sont extrêmement inquiets parce que la loi alimentation permet de protéger les agriculteurs. Il y a ce qu'on appelle la non-négociabilité de la matière première. Oui. Quand ça a été payé à l'agriculteur, ça n'est pas négociable. Le prix du lait, quand il a été payé à 400 euros tonne, il ne peut pas être renégocié. Mais par contre, le carton qui a augmenté de 40%, l'aluminium qui a augmenté de 65%. Les distributeurs, je dis, on ne veut pas le savoir, débrouillez-vous.
Leclerc, vous avez fait allusion à lui, dit on demande une augmentation de 8% sur 60% de mon chiffre d'affaires, ce n'est pas acceptable. On est dans cet ordre-là de demande de hausse de prix, qui vous semble légitime ou pas d'ailleurs.
La demande est de cet ordre-là et elle est parfaitement justifiée quand on regarde de combien ont augmenté les engrais, l'énergie, le gaz. Tout ce que l'on utilise a augmenté énormément. Donc 8%, oui, c'est le niveau. Alors, Monsieur Leclerc l'a reconnu, d'autres aussi. Même Jacques Cressel, le président de la Fédération du commerce et de la distribution, l'a dit hier sur une antenne. Il faut dire aux Français qu'on est en économie de guerre. On est en économie de guerre. Entre tous les événements que vous avez cités, sécheresse, crise en Ukraine, Covid en Chine qui redémarre dans la zone la plus industrielle, qui nous livre plus grand-chose, etc. Il faut se préparer à faire des efforts et acheter des produits français, des agriculteurs français, des industriels français. Mettre un pull l'année prochaine quand il y aura moins de gaz. Moins 1 degré, c'est moins 10% de gaz acheté à Poutine. Achetons tous des pulls et mangeons des produits français, des territoires français. C'est mieux pour l'environnement, c'est mieux pour les emplois français et c'est beaucoup mieux pour la planète. C'est du vrai patriotisme.
Merci Christian Lambert, président de la FNSEA, d'être venu dans les studios de France Inter. 13h44.
France Inter, le 13-14.
Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour, bonjour Renaud Dubé.
À suivre le vif de l'histoire, quel est le programme aujourd'hui?
On ne sait pas très bien comment célébrer et à quel moment l'abolition de l'esclavage de 1848.
Ce sera dans 10 minutes. Avant cela, le feuilleton dans les jardins familiaux de Lille et tout de suite c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
C'est mercredi, il y a des sorties au cinéma en dehors de l'actualité du Festival de Cannes et notamment ce premier film Van Gogh in Love de Jean-Luc Ayache. Au casting, il y a Frédéric Diefenthal qu'on retrouve à votre micro le temps d'une chanson.
Et il m'a tout d'abord raconté l'argument de ce film Van Gogh in Love, une comédie sentimentale. Un brin surréaliste où se mêlent enjeux artistiques et affectueux.
Ce que j'appelle une comédie sentimentale schizophrénique. Un triangle amoureux improbable entre un peintre contemporain qui connaît la gloire après avoir quitté sa femme pensant être un artiste maudit, enfin sa fiancée à l'époque. Et 10 ans après, une rétrospective à Paris, il la retrouve par hasard, sauf qu'il ne la retrouve pas seul. Il la retrouve en compagnie d'un individu, soit c'est un SDF pour lui, soit c'est Van Gogh, en tout cas il est habillé pareil, et puis il s'appelle Vincent. Et à partir de là, finalement, il va focaliser sur cet ex-fiancé et cet individu. Et puis, il y a un triangle amoureux qui va naître, voilà. Et c'est vraiment un joli film.
C'est donc une chanson de Blur qu'a choisi Frédéric Diefenthal, Girls and Boys, sortie, oula, il y a presque 30 ans.
1994, c'était le premier titre du troisième album du groupe britannique. À l'époque, Frédéric Diefenthal avait 25 ans. Et c'est d'abord le son qui lui plaît dans ce titre-là.
Un son très binaire, c'est que des instrus, hein, c'est basse, batterie, guitare, mais qui sonne très électro. Déjà à l'époque, voilà, ils étaient en avance. Il y avait ces deux groupes aussi qui se tiraient la bourre, qui étaient Oasis et Blur. Ce groupe Blur, un groupe pop-rock ultra connu, ultra célèbre, mais quand même, c'est presque des inconnus par rapport à Oasis, parce qu'Oasis faisait beaucoup de bruit.
Vous étiez plus Blur qu'Oasis ?
Ah, c'est dur à départager. C'est deux emblèmes de la Britpop, la pop british, quoi. Deux groupes très forts. dans la pop. En tout cas, c'est ce qui a amené la musique chantée actuelle, cette pop dance. Oasis et Blur, il n'y avait pas qu'eux, mais ils sont les chefs de file.
Elle nous dit quoi cette chanson ?
Aime-toi, fille ou garçon, fille qui veut être garçon, garçon qui veut être fille, aime-toi. L'émission passe le lendemain de la journée contre l'homophobie, donc c'est tout un symbole, c'est un vrai message. Donc ce morceau est indémodable pour moi, puis voilà, ça fait partie des choses que dans ma playlist je passe à n'importe quel moment de la journée. Et c'est un morceau qui est fun, qui est entraînant et qui fait encore danser, voilà, c'est top. Le son est actuel.
Girls and Boys de Blur, c'était donc Frédéric Pommier, le choix de Frédéric Diefenthal.
Frédéric Diefenthal, que l'on retrouve Bruno Duvic dans Van Gogh in Love de Jean-Luc Ayache. Le film sort dans une cinquantaine de salles en France.
C'est le troisième épisode de notre feuilleton dans les jardins partagés de Lille. Hier, Nicolas, qui est cadre dans la grande distribution, nous racontait que ces moments dans les jardins partagés, c'était plus qu'un loisir, une thérapie, alors qu'il est en arrêt pour burn-out. Il est à nouveau avec Cécile Bidot aujourd'hui et nous croisons aussi dans cet épisode Chérifa, qui passe de l'informatique au bocaux de betteraves.
Est-ce qu'en étant ici, on a l'impression d'être juste à côté du vieux Lille ?
Non, on a l'impression d'être à la campagne.
C'est bucolique, hein ? Hier soir, ça sentait le barbecue à plein vent. C'est comme les vacances.
C'est vrai que là, on est dans une allée centrale et on voit tout du long. Il y a des jardins, je crois qu'il y en a 70 à peu près.
73.
Vous connaissez tout le monde ?
Ah bah moi, oui, en arrivant, on prend soin aussi de faire connaissance, d'appeler les gens par leur prénom, tout simplement.
Ça travaille. Hein.
Ah, ça bosse, ça bosse. Alors, Maria est déjà passée, elle a déjà arrosé son jardin.
Donc, Maria, c'est la doyenne.
C'est la doyenne, ouais, tout à fait. 84 ans et qui fait son jardin toute seule comme une grande, mais au cordeau. Marlene.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, très bien.
Excusez-nous, hein, le chien, il s'est permis de rentrer. Marlene, elle est comme chez elle. Elle va dans tous les jardins. Beaucoup. Ça nous permet de faire connaissance.
Donc, vous vous connaissiez ?
Pas encore. On s'est déjà aperçu, mais...
Je crois, c'était le jour du barbecue, c'était...
Le jour du barbecue,
ah bah voilà,
il y avait
voilà.
Beaucoup de monde. Alors là, ouais. C'était le jour des grandes présentations.
Voilà.
C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde.
Quel jardin ?
Tu es numéro 2.
Ah, c'était toi qui nous as offert le jardin.
C'est ça.
Bah oui, c'était ça, c'était là-bas. Ça. Moi, c'est Chérifa.
Enchanté, Chérifa. Nicolas.
Nicolas.
Et ma maman, Nelly.
Nelly. Voilà.
Chérifa, c'est aussi ce que vous aimez dans le jardin, vous, la rencontre avec les autres jardiniers ?
Ah oui, c'est très convivial, on se tutoie tous, il y a l'entraide, c'est génial ça. Mon voisin m'a aidé ce matin dans des petits travaux, il est là. Enfin, moi je suis une grande bavarde, donc ça m'arrange.
Ça fait combien de temps que vous cultivez ici ?
Ça fait un an pile poil.
Vous avez su que vous l'aviez ? Vous avez réagi comment ?
C'était une attente de 3 ans. C'était une excellente nouvelle pour moi. Je viens tous les jours.
Et vous cultivez quoi alors ? Je peux me permettre de voir
Alors, j'ai des radis, mais ça ne va pas très fort. Il y a de la betterave, il y a des concombres, des oignons blancs, de la courgette, de la courge. Là-bas, c'est des fraises. Là, il va y avoir de la pomme de terre.
C'est quoi ça ?
Un petit figuier.
Pourtant, on est dans le Nord.
Oui, mais ça donne. Hein. C'est un clin d'œil à mes origines kabyles. L'année dernière, j'ai eu tellement de betteraves que j'en ai fait beaucoup.
Vous les avez vendues ?
Jamais. Ce n'est pas l'esprit du jardin. On ne vend pas. C'est pour moi, c'est pour mes amis. Le laurier, j'en donne à mes amis. Les fraises, je partage avec mes voisins. Et puis, manipuler la terre et tout. Je sors d'un métier technique, moi, je suis informaticienne. Je me ressource quand je viens là.
Mais c'est vrai que vous vous dites, c'est autant de choses que j'achète pas.
Tout à fait. On dirait que vous l'avez enfanté. N'est-ce pas, c'est à vous. Vous avez mis la graine à la pousser et voilà, c'est génial.
Donc là, vous avez votre petite binette à la main.
Voilà, c'est des racines.
Ça, c'est des mauvaises herbes.
C'est des mauvaises herbes.
Il faut être musclé aussi pour être jardinier.
Il faut le faire régulièrement, justement, sinon on est envahi. Après, j'ai des outils, hein. Je ne suis pas tout le temps sur les genoux. Ça entretient la forme.
Ça vous arrive de venir et juste de regarder pousser?
Eh bien oui, je sais exactement que là, il y a un bourgeon et que là-bas, une des échalotes a déjà percé. Donc, je surveille de près. Le matin, c'est une surprise quand vous arrivez et que vous trouvez toutes les fleurs là. C'est génial.
Le feuilleton de Cécile Bideau, réalisation Lucie Lemarchand. On le retrouvera vendredi pour le dernier épisode. Demain, le 13-14, est à Kingersheim, en Alsace, pour parler de démocratie participative.
France Inter. Le 13-14.
Cette question, Jean Lebrun, dans le vif de l'histoire, quelle date pour célébrer l'abolition de l'esclavage? Au plan national, c'est le 10 mai, date de la loi Taubira, qui qualifie l'esclavage de crime contre l'humanité. C'était il y a un peu plus de 20 ans. Mais en Martinique, par exemple, c'est le 22 mai. Et vous avez voulu vous placer à égale distance de ces choix chronologiques.
Oh ben c'est plus prudent, hein, parce que le dissensus est si profond. Je vais même revenir au 27 avril, si vous le voulez bien. 27 oui. avril 1848. La République en France, la deuxième, a légiféré dans l'immédiateté, alors qu'en Angleterre, le processus d'abolition avait commencé plus tôt, mais il avait été graduel. Donc un décret, le 27 avril 1848, qui est présenté actuellement dans sa matérialité par une petite exposition aux Archives nationales, accompagnée très simplement de quelques signes de la vie dans les plantations des Antilles, ainsi des entraves de fer que devaient porter les esclaves. Le texte voté en 48 par l'Assemblée est issu d'un comité animé par le pionnier Schœlcher. Il est lapidaire. Dans les lieux libérés, je cite, de la servitude, l'accès des anciens esclaves masculins à la citoyenneté est ouvert. La célébration du 27 avril a longtemps été celle d'un moment zéro institué par la République qui se targuait de faire table rase du passé. Les statues de Schœlcher disséminées aux Antilles le représentent volontiers, debout, de haute stature, posant une main protectrice sur la tête crépue d'un petit noir. Il va sans doute mener à l'école où l'attend un nouveau destin qui n'aura plus rien à voir avec celui de ses parents.
Et alors comment, en contradiction avec cette vision, la date du 22 mai a-t-elle émergé en Martinique?
À Schœlcher, il est maintenant reproché de n'avoir pu ou voulu changer, ni même ébrécher, le système économique des plantations. Les anciens esclaves, devenus nouveaux, libres, citoyens, électeurs, même pour les hommes, ont dû continuer à travailler dans des conditions qui leur ont paru inébranlables. Les propriétaires, qui avaient été indemnisés pour leur libération, avaient la possibilité de les enfermer dans un nouveau statut inégalitaire, celui d'engagé sur un temps long. Or, dès le centenaire de l'abolition, en 1948, Aimé Césaire, le poète, le grand leader de la Martinique, avait glissé dans son hommage à Schœlcher une évocation de la révolte du 22 mai 1848 qui, dans son île, avait suivi la parution du décret à Paris. Les esclaves réclamaient une application sans aucun délai du décret. Ils étaient descendus des mornes, ils avaient allumé des incendies. L'objectif des historiens antillais qui ont beaucoup influencé la mise en place des nouveaux dispositifs de mémoire et proposé cette date du 22 mai, c'est de dire que ce sont les esclaves eux-mêmes qui, révoltés de tout temps, ont arraché l'abolition.
Et le 22 mai prend de plus en plus d'importance en Martinique.
Quand il était maire de Fort-de-France, Aimé Césaire en avait fait une journée de repos et de célébration et depuis, les autorités civiles et religieuses l'ont rejoint. Le MIR organise une grande traversée à pied de l'île. Le MIR, c'est le mouvement international pour les réparations. Il parle de trois R. Le premier R comme reconnaissance, c'est le langage assez largement accepté depuis la loi Taubira. Mais avant le troisième R, réconciliation, il y en a un deuxième R comme réparation. Alors réparation, ça pose beaucoup de questions. Comment faire réparation aujourd'hui? Par le don symbolique d'un lopin, on en parle à la Réunion, par des versements d'argent à des programmes de développement, versements abondés par qui, programmes de développement choisis par qui?
Oui, il y a un autre R, responsabilité.
Alors, vous avez beau, Bruno, venir de Vendée, non?
Oui.
Laquelle a donné des hommes au commerce négrier de Nantes. et moi de Saint-Malo, où la traite a servi d'économie de complément. Nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est fait avant nous, sans nous, et dans des structures économiques dont les individus de l'époque eux-mêmes n'étaient pas coupables. Cependant, Bruno, un autre type de responsabilité peut être imaginé qui nous concerne tous. Une responsabilité devant l'avenir. La marche 2021 du MIR allait de mangrove en rivière comme pour rappeler notre rôle de veille face aux ressources naturelles. Cette année, le climat risque d'être particulièrement tendu le 22 mai en Martinique. L'usage dans les bananeraies pendant des lustres de la chlordécone, un perturbateur endocrinien, a provoqué la protestation et on sait que l'obligation vaccinale a provoqué, elle, le rejet. Ces colères multipliées se combinent avec le souvenir sans cesse réanimé par les activistes de la souffrance des ancêtres. Le MIR appelle même à une reconnexion avec l'Afrique. Je vais citer Césaire pour finir. Vous savez que ce n'est point par haine des autres races que je m'exige, bûcheur de cette unique race. Ce que je veux, c'est pour la faim universelle, pour la soif universelle.
Et vous ajoutez un outil commode pour voir plus clair dans ces débats, le livre de Magali Besson et Myriam Cottas, Lexique des réparations de l'esclavage aux éditions Cartala. Merci Jean Lebrun. Eh bien, bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré, quel programme?
On va parler du coût écologique et financier des projets autoroutiers en France.
À tout de suite.